Tacite sur les événements du Vésuve. Cette lettre fait suite à la lettre sur la mort de Pline l'Ancien, son oncle. La lettre où je vous ai donné les détails que vous me demandiez sur la mort de mon oncle vous a inspiré, me dites-vous, le désir de connaître les alarmes et les dangers même auxquels je fus exposé à Misène où j'étais resté, car c'est là que j'avais interrompu mon récit. Quoique ce souvenir me saisisse d'horreur, j'obéirai. Après le départ de mon oncle, je continuai l'étude qui m'avait empêché de le suivre. Vint ensuite le bain, le repas, je dormis quelques instants d'un sommeil agité. Depuis plusieurs jours, un tremblement de terre s'était fait sentir. Il nous avait peu effrayés, parce qu'on y est habitué en compagnie. Mais il redoubla cette nuit avec tant de violence qu'on eût dit non seulement une secousse, mais un bouleversement général. Ma mère se précipita dans ma chambre. Je me levai pour aller l'éveiller si elle eût été endormie. Nous nous assîmes dans la cour qui ne forme qu'une étroite séparation entre la maison et la mer. Comme je n'avais que 18 ans, je ne sais pas si je dois appeler fermeté ou imprudence ce que je fis alors. Je demandai un tite-live. Je me mis à le lire, comme dans le plus grand calme, et je continuai à en faire des extraits. Un ami de mon oncle, récemment arrivé d'Espagne pour le voir, nous trouva assis, ma mère et moi, je lisais. Il nous reprocha à ma mère son sang-froid et à moi ma confiance. Je n'en continuai pas moins attentivement ma lecture. Nous étions à la première heure du jour et cependant on ne voyait encore qu'une lumière faible et douteuse. Les maisons autour de nous étaient si fortement ébranlées qu'elles étaient menacées d'une chute infaillible dans un lieu si étroit, quoiqu'il fût découvert. Nous prenons enfin le parti de quitter la ville. Le peuple épouvanté s'enfuit avec nous, et comme dans la peur on met souvent sa prudence à préférer les idées d'autrui aux siennes, une foule immense nous suit, nous presse et nous pousse. Dès que nous sommes hors de la ville, nous nous arrêtons. Et là, nouveau phénomène, nouvelle frayeur. Les voitures que nous avions emmenées avec nous étaient, quoiqu'en pleine campagne, entraînées dans tous les sens, et l'on ne pouvait même, avec des pierres, les maintenir à leur place. La mer semblait refoulée sur elle-même, et comme chassée du rivage par l'ébranlement de la terre. Ce qu'il y a de certain, c'est que le rivage était agrandi et que beaucoup de poissons étaient restés à sec sur le sable. De l'autre côté, une nuée noire et horrible, déchirée par des tourbillons de feu, laissait échapper de ses flancs entrouverts de longues traînées de flammes semblables à d'énormes éclairs. Alors l'ami dont j'ai parlé revint plus vivement encore à la charge. « Si votre frère, si votre oncle est vivant, nous dit-il, il veut sans doute que vous vous sauviez, et s'il est mort, il a voulu que vous lui surviviez. Alors qu'attendez-vous donc pour partir ?» Nous lui répondîmes que nous ne pourrions songer à notre sûreté tant que nous serions incertains de son sort. À ces mots, il s'élance et cherche son salut dans une fuite précipitée. Presque aussitôt après, la nue s'abaisse sur la terre et couvre les flots. Elle dérobait à nos yeux l'île de Capré, qu'elle enveloppait, et nous cachait la vue du promontoire de Misène. Ma mère me conjure, me presse, m'ordonne de me sauver de quelque manière que ce soit. Elle me dit que la fuite est facile à mon âge, que pour elle, affaiblie et apesantie par les années, elle mourrait contente si elle n'était pas cause de ma mort. Mais je lui déclare qu'il n'y a de salut pour moi qu'avec elle. Je lui prends la main, je la force à doubler le pas. Elle m'obéit à regret et s'accuse de ralentir ma marche. La cendre commençait à tomber sur nous, quoiqu'en petite quantité. Je tourne la tête et j'aperçois derrière nous une épaisse fumée qui nous suit en se répandant sur la terre comme un torrent. Pendant que nous voyons encore, quittons le grand chemin, dis-je à ma mère, de peur d'être écrasés dans les ténèbres par la foule qui se presse sur nos pas. À peine nous étions-nous arrêtés, que les ténèbres s'épaissirent encore. Ce n'était pas seulement une nuit sombre et chargée de nuages, mais l'obscurité d'une chambre où toutes les lumières seraient éteintes. On n'entendait que les gémissements des femmes, les plaintes des enfants, les cris des hommes. L'un appelait son père, l'autre son fils, l'autre sa femme. Ils ne se reconnaissaient qu'à la voix. Celui-ci s'alarmait pour lui-même, celui-là pour les siens. On en vit à qui la crainte de la mort faisait invoquer la mort même. Ici, on levait les mains au ciel, là, on se persuadait qu'il n'y avait plus de Dieu et que cette nuit était la dernière, l'éternelle nuit qui devait ensevelir le monde. Plusieurs ajoutaient au danger réel des craintes imaginaires et chimériques. Quelques-uns disaient qu'à Misène, tel édifice s'était écroulé, que tel autre était en feu. Bruit mensonger, mais qui était accueilli comme des vérités. Il parut une lueur qui nous annonçait non le retour de la lumière, mais l'approche du feu qui nous menaçait. Il s'arrêta pourtant loin de nous. L'obscurité revint, la pluie de cendres recommença plus forte et plus épaisse. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous eût engloutis et étouffés sous son poids. Je pourrais me vanter qu'au milieu de si affreux dangers, il ne m'échappa ni une plainte ni une parole qui annonça de la faiblesse, mais j'étais soutenu par cette pensée déplorable et consolante à la fois que tout l'univers périssait avec moi. Enfin, cette noire vapeur se dissipa comme une fumée ou comme un nuage. Bientôt après, nous revîmes le jour et même le soleil, mais aussi blafard qu'il apparaît dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux, troublés encore. Des monceaux de cendres couvraient tous les objets comme d'un manteau de neige. Nous retournâmes à Misène. Chacun s'y rétablit de son mieux et nous y passâmes une nuit entre la crainte et l'espérance. Mais la crainte l'emportait toujours, car le tremblement de terre continuait. La plupart, égarés par de terribles prédictions, aggravaient leurs infortunes et celles d'autrui. Cependant, malgré nos périls passés et nos périls futurs, il ne nous vint pas la pensée de nous éloigner avant d'avoir appris des nouvelles de mon oncle. Vous lirez ces détails, mais vous ne les ferez point entrer dans votre ouvrage. Ils ne sont nullement dignes de l'histoire, et si vous ne les trouvez pas même convenables dans une lettre, ne vous en prenez qu'à vous seul qui les avez exigés. Adieu.